Et donc au téléphone sonne ce soir, à quelques jours de la rentrée scolaire et des rentrées professionnelles également, eh bien on ressort effectivement les trousses, les crayons. Question jusqu'à 20h pour réfléchir à notre rapport à l'orthographe et à la grammaire. Comment éviter les pièges et autres choses trappes, avec un S à trappe me semble-t-il, mais pas à chausse. Qu'est devenue la dernière tentative de réforme de l'orthographe qui voulait tordre le cou en partie aux accents circonflexes et autres petits tirets? Quand l'orthographe évolue, comment nous adaptons-nous, quel que soit notre âge? Et les élèves, sont-ils toujours hantés par les dictées?
Des moutons étaient en sûreté dans un parc. Des moutons, moutons. Voyons, mon enfant, faites un effort. Je dis moutons étaient. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'un mouton, il y avait plusieurs moutons.
Il y avait les moutons, extrait du film Topaz en 1951. L'orthographe et la grammaire ce soir, vos questions. Le standard est ouvert, c'est au 01 45 24 7000.
Éric Delvaux. Le téléphone sonne.
Avec deux invités pour répondre à vos témoignages et questions ce soir, Estelle Roctanière, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du comité d'experts du projet Voltaire, formatrice et également. Projet Voltaire, c'est le principal site, on peut dire ça comme ça, de remise à niveau en orthographe.
Oui, tout à fait. Oui.
Et puis à vos côtés, Rachid Santaki, bonsoir.
Bonsoir.
Romancier et fondateur de la grande dictée, la dictée géante, un peu partout en France, notamment au Stade de France. Je crois qu'il y a eu près de 1500... En 2018 et 2019, il y avait combien de personnes?
À peu près, c'est le même,
même chiffre au Stade de France. Alors, on vient d'entendre un extrait de la dictée de Topaz avec cette voix sentencieuse de l'instituteur de l'époque, les moutons. Cette dictée qui a hanté plusieurs générations, était-ce la bonne méthode pour apprendre l'orthographe, Rachid Santaki?
Du coup, la dictée, aujourd'hui, c'est un cliché pour beaucoup parce qu'on reste sur la sanction. Alors qu'en classe, les enseignants travaillent sur la dictée négociée. Vous avez des groupes d'élèves qui vont discuter d'un mot et le retenir. La dictée, c'est plus du tout l'enseignant avec la blouse et la règle et la mauvaise note. Elle a évolué aussi. Donc, on a l'impression que la dictée, c'est la sanction, mais non, ça c'est plus le cas en tout cas.
Estelle Roctanière, qu'est devenue la promesse du ministère de l'Éducation nationale de rendre obligatoire la dictée quotidiennement dans les classes de primaire?
Je pense que, en tout cas, c'est une très bonne idée et je pense que la dictée est tout à fait nécessaire, utile. Et je pense qu'en effet, c'est très bien qu'on change un peu de point de vue sur la dictée parce que ça peut être un exercice, au fond, très amusant. Voilà, et ça c'est très important de le concevoir comme ça, je pense.
Non, je vous en prie. Rachid Santaki, c'est justement pour répondre à quel besoin que vous avez créé ces dictées un peu partout en France, ces dictées géantes.
Ça s'est fait sur un malentendu.
C'est-à-dire?
Ça a été en fait avec un animateur, jeunesse. On s'est retrouvé, qui avait lu mes livres, qui m'a vu sur les réseaux sociaux lire une dictée à Clichy-sous-Bois. J'avais été invité en tant que simple lecteur. Et donc, du coup, on s'est retrouvé en se disant, mais pourquoi pas essayer d'organiser ça? Et donc, on avait organisé une première dictée en attendant, en espérant avoir 40 participants un samedi matin. On s'est retrouvé avec 250 participants, des familles qui sont venues jouer le jeu. J'avais le trac lors de cette première lecture, j'avais lu un extrait des Trois Mousquetaires et le texte était très difficile. Mais malgré tout, on a eu des gens, alors des enfants qui ont pleuré effectivement, du coup la frustration, mais ça a été un jeu. Et de cette première expérience, j'ai répété l'exercice plus de 200 fois. Donc dans des quartiers, en milieu carcéral et effectivement dans des stades comme le Stade de France.
Au 01 45 24 7000 au standard de France Inter, Chantal nous appelle. Bonsoir Chantal.
Oui, bonsoir Éric Delvaux. Je vous trouve bien optimiste quand vous dites qu'en lançant l'émission que le niveau d'orthographe évolue. Moi, je trouve que malheureusement, il baisse. Il baisse. Le tout, c'est que il ne baisse pas de façon inexorable. C'est vrai que je suis professeure de français et correctrice de concours de la fonction publique, donc je suis assez sensibiliser à ça, mais l'orthographe, évidemment, baisse. La ponctuation également, dont on parle jamais, et les deux vont souvent ensemble, d'ailleurs, parce que quand vous écrivez mal ou de travers, et qu'en plus, vous savez pas utiliser un point-virgule ou que vous mettez des points à tout bout de champ, vous devenez difficile à lire, et finalement, l'orthographe et écrire correctement, c'est une question de politesse aussi vis-à-vis de l'autre. C'est une enfin, ça sert à se faire comprendre évidemment, mais c'est aussi une question de politesse. Alors malheureusement, moi je me demande si, pour reprendre mon début de mon propos, il n'y a pas une sorte de laxisme effectivement, y compris en haut lieu. Je ne sais pas si le ministère est tout à fait attentif à ça et si il ne part pas du principe que, notamment en baissant le nombre d'heures de cours de français d'ailleurs, que l'orthographe baisse inexorablement, justement le niveau d'orthographe baisse, alors que, bon, c'est facile, enfin...
Alors on va donner la réponse.
Souvent, mais souvent on parle du niveau des certificats d'études de nos grands-pères et arrière-grands-parents qui écrivaient autrement mieux qu'aujourd'hui et qui ne faisaient pas de fautes, qui avaient en plus une jolie écriture. Et pour finir, excusez-moi, je ne vais pas être très gentille avec les journalistes, mais l'orthographe des journalistes quand même n'est pas non plus...
Ah, nous ne sommes pas exempts de tout reproche, loin de là, évidemment. Et on fait ce qu'on peut pourtant.
Encore moins.
Ben, merci de ce témoignage et de cette question. En même temps, juste un préalable, quand je dis que, dans mon propos liminaire, que l'orthographe évolue, je voulais dire que l'orthographe changeait. Je n'ai pas dit qu'il y avait une évolution positive de la maîtrise de l'orthographe par les enfants, parce que c'est bien le contraire qui est le cas, comme vous l'avez rappelé. Rachid Santaki, Estelle Roctanière, Chantal parlait du laxisme en haut lieu, la maîtrise, l'apprentissage et la maîtrise de l'orthographe, c'est d'abord un levier politique. Qui veut répondre?
Bah, je me lance du coup pour réagir, enfin répondre à Chantal. Effectivement, on a beaucoup moins de rigueur. Et effectivement, l'orthographe traduit, ça représente, ça parle du coup quand on envoie une lettre de motivation. Mais on a aussi par rapport justement, Chantal parlait du certificat d'études, c'est qu'aujourd'hui on est beaucoup assisté aussi par les correcteurs sur le téléphone, sur l'ordinateur, donc l'écriture aussi se perd, et c'est ce qui explique que l'orthographe, si on ne l'entretient pas, même si on a une bonne base, on peut vite le perdre. Donc aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, on est confronté aussi à une difficulté, et avant effectivement on n'avait pas tous ces outils qui nous dispersaient.
Estelle Roctanière, y a-t-il une corrélation chez les plus jeunes notamment entre l'usage du SMS et la maîtrise ou la pratique de l'orthographe?
Alors il y a des études qui disent que non. Je rebondis sur le niveau des Français. Enfin, alors certes, le niveau a baissé, il y a des études qui le montrent, mais moi je trouve qu'il y a plein de choses positives qui se passent en ce moment, enfin depuis quelques années. Le sujet même de votre émission, bah, je trouve formidable, parce que bah, c'est un sujet justement,
l'orthographe et la grammaire. Qu'y a-t-il de positif à voir les enfants de moins en moins bien maîtriser l'orthographe? Quels sont les aspects positifs que vous en retirez?
Alors non, ça c'est pas positif, mais je pense qu'il y a plein d'outils, et notamment l'outil numérique, il y a plein d'outils qui permettent de progresser en orthographe et en grammaire à tout âge, quelles que soient ses difficultés. L'outil numérique, c'est un formidable atout, parce qu'il permet de personnaliser l'enseignement, il permet de progresser en répétant, l'outil est corvéable à merci, on peut utiliser... on peut se former en utilisant son téléphone portable, son ordinateur, sa tablette. Donc ça, c'est aussi une façon d'utiliser de nouveaux outils dont les enfants se servent, en fait. Donc,
oui, je voudrais juste réagir. Alors, du coup, parce que souvent, on m'a posé la question, pourquoi je ne travaille pas sur des dictées, sur des réseaux numériques, etc. Mais on a l'écrit, la motricité, le mouvement de la main, l'écriture, c'est quelque chose aussi qu'on imprime beaucoup plus que sur les supports digitaux. Aussi, c'est l'écrit, le mouvement, l'écriture, c'est ce que disait Chantal sur le fait de s'appliquer des lettres et tout, ça, il y a quand même quelque chose à la fois quand on parlait
de... Les pleins et les déliés, ça a du sens, voilà, avec un stylo.
On n'a pas la même réflexion que sur le clavier, donc effectivement, c'est réussir à trouver le juste milieu entre le digital et puis ce mouvement en fait qui nous oblige aussi à réfléchir, qui est une terminaison.
Aujourd'hui, les plus jeunes tapent sur des notes de touches de téléphone. Dans le dernier livre de Michel Fize, L'école à la ramasse, le sociologue explique le déclin de la langue française, le déclin du français en partie à tous ces textos. La langue texto, écrit-il, est en train d'acquérir un statut de langue dominante. Êtes-vous d'accord avec ça, Rachid Santaki?
Non, pas forcément. Non, du tout, parce que tout à l'heure, je parlais on a des correcteurs, on n'est pas... il ne faut pas oublier qu'en fait, ce qui a un moment, pourquoi on faisait des abréviations avec les textos, c'était dans les années 2000. car on payait par signe le texto. Donc là, effectivement, le t'inquiète, TKT, etc. Oui, aujourd'hui, non, on a, c'est limité en termes de saisie, on a un correcteur. Donc c'est pas du tout le. On n'est pas forcément sur du langage texto, on ne peut pas généraliser non plus auprès des jeunes. Je pense que...
Au standard de France Inter, vos témoignages et vos questions, vous nous appelez au 01 45 24 7000. Pierre est en ligne de Lyon. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Bonsoir.
Quelle est votre question ou votre témoignage ?
Ma question porte sur le référentiel en fait de la langue française. Il y a clairement un problème qui est dû à l'histoire et qui concerne spécifiquement le français par rapport aux autres grandes langues qu'on connaît sur la planète, qui fait que le français, notamment l'écrit, on parle d'écrit, est devenu extrêmement complexe avec le temps, et que c'est cette langue très compliquée qu'on essaye depuis des décennies, voire des siècles, d'inculquer aux enfants et de faire pratiquer par tout le monde. Ma question est, comment se fait-il que cette langue, qui par ailleurs comporte beaucoup d'incohérences, c'est-à-dire qu'une règle est assortie de 20 exceptions, qui elles-mêmes ont des exceptions, ce soit ça qu'on continue de promouvoir, et comment, pour 300 millions de francophones, n'a-t-on pas un corpus à étudier et à diffuser qui soit simple, cohérent, sans être phonétique, forcément, hein, mais qui soit quelque chose de compréhensible pour tout le monde, et qu'on arrête de diviser les gens avec des questions, on appelle ça byzantine. Hein,
voilà. Donc, eh bien, je soumets votre réflexion à nos deux invités. Il y a deux aspects dans votre témoignage. D'abord, l'écrit en français trop complexe et trop incohérent. Estelle Roctagnard, vous êtes d'accord avec ça?
Non, en fait, c'est vrai qu'il y a des exceptions, je ne peux pas dire le contraire. Il y a aussi beaucoup de règles, donc on peut avoir un bon niveau en orthographe et en grammaire en connaissant déjà bien les règles. Et ensuite, on peut compléter en apprenant les exceptions. Mais il ne faut pas commencer par les exceptions, il n'y a pas que des exceptions.
Mais les exceptions sont pointées du doigt ce soir encore, une écriture française, une orthographe et une grammaire française trop complexes. Rachid Santaki, vous l'avez senti ?
Mais je trouve que c'est bien justement qu'elle soit complexe. Souvent, tout à l'heure, vous parliez de la réforme. La langue française, de toute façon, elle évolue, les mots évoluent. Mais je trouve que c'est intéressant. C'est la force aussi de la langue française, sa complexité. Donc, d'essayer de la changer et d'en faire quelque chose de commun, non ? Je trouve que ça, elle perdrait...
Richesse.
Oui, de sa richesse.
Et dans la question de Pierre, il y avait aussi l'aspect francophone. Trouver un corpus commun à cette francophonie, est-ce que c'est a du sens à vos oreilles et à vos yeux?
Ben, du coup, on a déjà, on a quelque chose de commun, et après, en fonction des pays, vous avez des mots qui apparaissent aussi, donc ça aussi, c'est fort aussi, c'est singulier, donc non, je trouve que d'uniformiser tout ça, ça l'est déjà, on a déjà effectivement des règles et après des spécificités en fonction des pays.
Alors, pas mal de questions également sur la réforme de l'orthographe. La dernière date de 2016. Une question politique, disait-on en début d'émission. Pourquoi l'orthographe a-t-elle été révisée dans les manuels scolaires à la rentrée 2016, Estelle Roctagnière?
En fait, cette réforme, elle date de 1990.
Oui, il a fallu un quart de siècle pour la mettre en place.
Oui, elle n'est pas vraiment encore appliquée. Il y a une grande résistance. En fait, les Français sont très attachés... à la langue, il y a beaucoup de paradoxes, hein, parce que dès qu'on touche à la langue, on voit bien que les gens réagissent très vite.
C'est épidermique.
Oui, voilà. Ouais. Par exemple, le mot oignon, enlever le i, mon Dieu, bon, il y a des gens qui vont dire c'est horrible, d'autres c'est très bien, enfin, on en parle, et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Est-ce que ça simplifie vraiment les choses? Je ne suis pas certaine de ça, moi.
Rachid Santaki, vous avez senti ce côté épidermique dès qu'on veut modifier, réviser l'orthographe?
Alors, je vous explique, les textes que je choisis et que je lis lors de mes dictées sont des textes du 19e, avec des mots qu'on n'utilise plus. Donc, je m'amuse aussi là-dessus et ça interpelle les gens. Donc, on voit bien aussi le fait que ce soit complexe. Les gens s'en amusent aussi. Donc, de simplifier, je suis pas trop pour, en fait.
Mais cette révision de l'orthographe, vous le soulignez, à chaque fois, certains y voient une porte ouverte à l'appauvrissement de la langue, à un nivellement vers le bas. Vous le ressentez dans vos maisons respectives? Estelle Roctagnière?
Disons que je pense que ça ne simplifie pas les choses, à dire vrai. Parce que, par exemple, le mot oignon, bah, il faut retenir les deux orthographes. Est-ce que finalement, c'est plus facile pour un enfant? J'ai pas forcément de position tranchée, d'ailleurs, sur le sujet, parce que...
Mais plus de trois ans après, que reste-t-il de ces pistes de révision de l'orthographe française qui date de 2016, qui devait faire disparaître, par exemple, les accents circonflexes sur les I et les U, ou faire disparaître les PH? On en est où de cette histoire?
Dans les livres, dans les maisons d'édition, je travaille aussi dans une maison d'édition, là encore, il y a une grande résistance. On voit encore beaucoup d'accents circonflexes. Je crois que beaucoup de Français sont attachés à ces petites particularités et n'ont pas envie de ne plus les utiliser.
Donc nénuphar avec un F, éléphant avec un F, tout ça, ce n'est pas d'actualité, toujours pas. 01 45 24 7000 avec un appel de Fabien qui nous appelle de Marseille. Bonsoir Fabien.
Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Quel est votre témoignage ou votre question?
C'est pas vraiment une question, c'est plutôt un témoignage. Aujourd'hui j'ai 51 ans, étant moi-même diagnostiqué dyslexique assez jeune, j'ai eu beaucoup de soucis avec l'orthographe.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que souvent dans les dictées, j'étais plutôt à moins 3, puisque à l'époque...
On retirait des demi-points et des points, oui.
Voilà, exactement. Donc, je voulais juste dire que pour moi, l'orthographe, c'est une chose importante, mais qu'elle doit évoluer et que réellement pour les jeunes aujourd'hui, ils ont une autre façon d'appréhender l'orthographe et qu'elle leur permet de s'exprimer. Et que moi, pour moi, ça a toujours été quelque chose qui m'a empêché d'écrire. Alors, c'est tout ce que je voulais dire.
Eh bien, c'est un bon témoignage. Vous trouvez que l'orthographe est importante? On va poser ce commentaire à nos invités. Important et sérieux. En quoi est-ce sérieux, d'ailleurs, sérieuse l'orthographe? Pourquoi elle est sérieuse, cette orthographe? Pourquoi elle doit être sérieuse? Pourquoi faut la prendre au sérieux? Voilà ma question.
Il y a un enjeu énorme autour de l'orthographe. L'orthographe, c'est un marqueur social. Donc c'est important de la maîtriser. Et je pense qu'il est très important que tout le monde puisse maîtriser ces règles fondamentales. On n'est pas obligé d'être un champion, mais il y a des règles qu'on doit connaître parce qu'on n'a jamais autant écrit qu'aujourd'hui. On parlait des textos tout à l'heure, mais nous écrivons des courriels. 70% des salariés écrivent tous les jours. Donc c'est vraiment, l'écrit est on ne peut plus présent.
Donc ça peut être très discriminant de faire des fautes au bureau.
Bien sûr. Un CV dans lequel il y a des erreurs a de grands risques de finir à la poubelle. Donc c'est terrible.
Rachid Santaki, je vous pose la même question. En quoi la maîtrise de l'orthographe est-elle une chose sérieuse?
Du coup, c'est sérieux car c'est... Déjà, souvent, je le précise auprès des jeunes avant de commencer les dictées, on va avoir des seniors qui viennent s'amuser, entretenir justement leur niveau d'orthographe. Mais on a des jeunes qui peuvent justement être très présents sur les réseaux sociaux. Ceux qui sont bons, en général, sont friands justement de l'exercice et d'autres qui sont réticents. Et souvent, je rappelle que la première, dans l'accès, peut-être les recherches de stage, l'accès à l'emploi, ce qu'on va regarder, c'est effectivement la lettre de motivation. La lettre de motivation... faut pas oublier que les recruteurs, pour eux, c'est très parlant de recevoir une lettre avec des fautes, car du coup, c'est un manque de rigueur. Et c'est aussi ça, c'est un marqueur, effectivement, et maîtriser l'orthographe de toute façon. En plus, on en souffre parce que c'est pas discriminant, c'est excluant. C'est excluant, donc c'est sérieux l'orthographe.
D'ailleurs, au projet Voltaire, Estelle Roctanière, je rappelle que vous êtes membre de ce comité d'experts du projet Voltaire, vous proposez même une certification, un certificat pour valider notre niveau d'orthographe et d'écriture en général. Ça sert à quoi ce certificat?
Oui, alors tout à fait, c'est le certificat Voltaire, donc on peut passer dans toute la France. Ça permet de valider ses acquis, d'indiquer sur son CV son niveau en orthographe et en grammaire.
J'ai bien compris, mais c'est une demande des entreprises aujourd'hui, ça?
Ah oui, bien sûr, c'est de plus en plus reconnu. C'est très important d'indiquer ça sur son CV.
Notre rapport à l'orthographe ce soir, on en parle au téléphone sonne. Vous nous appelez, on est là jusqu'à 20h.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Au 01 45 24 7000, effectivement. Ella, je me permets de te tutoyer. Tu as 10 ans et tu appelles de Lyon. Bonsoir, Ella. Quelle est ta question?
Bonsoir,
Ella.
Alors, moi, c'est pas vraiment une question, c'est quelque chose que j'aimerais dire par rapport aux gens qui sont à l'école, quoi.
Alors, qu'est-ce que tu veux dire?
En fait, c'est pas pour critiquer, mais à l'école, on apprend quelque chose. Et 3 ans plus tard, on change de truc. On change le mot et l'orthographe du mot. Du coup, on peut pas savoir la langue entièrement. Et la langue, pour moi, c'est un peu trop compliqué. Donc certaines personnes qui ont du mal, c'est compliqué pour elles d'apprendre. Et puis après, qu'on leur dise, non, tu t'es trompé sur le mot, c'est pas ça. Alors c'est pas ça, mais c'est ça.
Alors ça, c'est pour le constat. Et la question, elle est laquelle, la question, du coup?
C'est pourquoi est-ce que le français, c'est une langue aussi compliquée?
Pourquoi le français est-elle une langue aussi compliquée? On a une réponse à ça ce soir, parce qu'elle vient des différents dialectes et que c'est une richesse plurie.
Alors là, du coup, on est sur autre chose. Si on devait parler de cette langue qui évolue sur l'oralité, effectivement, qui se nourrit d'autres langues. Après, sur l'orthographe, je pense qu'on a des règles, etc., et qu'on n'a pas forcément de grands changements.
Oui. Non. La réforme de l'orthographe dont on parlait tout à l'heure, en fait, elle concerne.
2016.
Voilà. Elle concerne un petit nombre de mots, en fin de compte, 1400 mots, je crois. Et les deux orthographes sont valables. C'est-à-dire que l'orthographe dite réformée n'annule pas l'orthographe traditionnelle. Donc, si on a envie d'écrire le mot oignon, O-I, ou le mot, ou O simplement, les deux orthographes
sont acceptées.
Alors, c'est ça, peut-être, que ce que reflète ce témoignage. C'est ça qui peut-être trouble les enfants. Moi, c'est la question que je me pose, parce qu'en effet, il faut retenir deux orthographes.
Alors,
on y arrive.
Ella vient de nous le dire, finalement, la maîtrise de l'orthographe, ça se joue très tôt. Cela dit, Estelle Roctanière, vous dites que malgré tout, il n'est jamais trop tard. On peut devenir un as de l'orthographe après avoir été un cancre?
Mais oui, tout à fait. Tout à fait. On peut n'avoir eu que des zéros en dictée et tout à coup, j'ai pas de baguette magique, mais on peut progresser en orthographe, en grammaire, on peut se réconcilier avec ça et moi je le constate tous les jours. C'est l'orthographe, en fait, c'est de l'entraînement, c'est de la répétition, il faut bien comprendre les règles, mais finalement on y arrive. Et quand on n'a plus peur de l'orthographe, eh bien c'est là qu'on commence à éprouver du plaisir aussi, et ça fait avancer. Et moi, je le constate, tous les jours. Les gens qui étaient bloqués et qui, tout à coup, travaillent. Hein, ça ne se fait pas comme ça.
Rachid Santaki, plus on vieillit, plus on se bonifie par rapport à l'orthographe. Vous le vérifiez, quel âge ont en moyenne ceux qui viennent à vos dictées géantes?
On a des maternelles qui pleurent parce qu'ils ne peuvent pas faire la dictée. Et la doyenne, c'est 93 ans. Non, alors, je ne pense pas qu'on se bonifie. C'est plutôt en révisant, souvent les seniors qui sont des fans de Bernard Pivot ou de la dictée et maintiennent leur niveau, ont un rapport très fort avec l'orthographe et la dictée. Après, je pense que le levier, le rapport à l'orthographe, c'est souvent des traumas qu'on a. Tout à l'heure, on avait un témoignage de cette personne, justement, par le rapport aussi avec la dyslexie. C'est qu'on est exclu, donc c'est difficile. Et finalement, c'est comment on détourne ça en jeu. Et une fois qu'on y prend du plaisir, alors là, on a envie d'apprendre, on a des mémotechniques, on a plein de choses. Donc c'est vraiment comment on va inverser le rapport.
Et comment vous expliquez l'engouement? Il y a la dictée de Bernard Pivot, il y a la vôtre, il y en a plein d'autres.
Beaucoup de dictées, une centaine.
Beaucoup de dictées existent aujourd'hui en France. Comment vous expliquez cet engouement et est-ce qu'il est récent?
Alors, il date, je sais qu'au début des premières dictées, vous aviez la semaine de la francophonie, donc effectivement pas mal d'animations autour. Après, c'est l'exercice est présenté. Je sais que souvent, lors des dictées, ce que j'explique, c'est qu'il n'y aura pas de notes. C'est le meilleur de sa catégorie qui le remporte, donc qui remporte dans sa catégorie, et donc celui qui fait le moins de fautes, donc pas de notes. Donc déjà de dire aux parents...
On enlève la sanction.
Voilà. Vous, ne vous inquiétez pas, vous ne repartirez pas avec un 0 sur 20. Tout de suite, vous voyez le sourire s'afficher. Et après, c'est effectivement s'amuser de la difficulté du texte. Donc c'est vraiment le jeu.
01 45 24 7000 au standard. Daniel, vous nous appelez des Bouches-du-Rhône. Bonsoir Daniel.
Oui, bonsoir.
Quel est votre témoignage ou votre question?
Non, moi j'ai pas de question. Je témoigne parce que je suis une secrétaire médicale à la retraite. J'ai 70 ans, je suis une grand-mère et j'adore l'orthographe. Et je disais que dans mon métier, j'étais obligée de rédiger des rapports de scanner, IRM, échographie, tout ça. Mes patrons ne me corrigeaient jamais mes comptes rendus parce que je ne faisais pas de fautes. Mais j'ai continué toute ma vie à lire des livres, les Becherelles, tout ça, pour continuer à être toujours opérationnel, disons. Et même maintenant que je suis à la retraite, je vais à des ateliers mémoire pour continuer justement à l'orthographe, parce que des fois, j'ai, en ne travaillant plus, c'est vrai que des fois, je bute sur des conjugaisons, mais je suis très à cheval sur l'orthographe. J'adore ça. Je trouve que c'est très important de savoir rédiger une lettre, de savoir parler. Et quand je lis des fois même des livres d'écrivains, des fois, ils m'en connaissent ou il y en a un en trop, je le vois de suite, je me dis, oh tiens, ils ont fait une faute. Voyez, et je trouve que les jeunes ne font plus assez de justement de lecture et d'écriture et c'est dommage. Moi, je me souviens, je formais parfois avant ma retraite des jeunes filles qui voulaient être secrétaires médicales mais qui faisaient des fautes atroces et elles me disaient mais moi je m'en fous, le patron, le radiologue nous corrigera. Je disais mais non, c'est pas comme ça. Il faut pas faire de fautes. Mais elles faisaient des fautes atroces, les conjugaisons, les S et tout. J'étais horrifiée et j'avais de la peine pour elle parce que je me disais ça va être un handicap pour elle. Vous voyez, et ce soir bon, je vais parler de l'émission qui passe sur la 2 Fabrice Luchini, je lis encore à mon âge les fables de La Fontaine. Vous voyez, parce que je trouve que c'est important, la morale, l'orthographe, enfin. Je suis peut-être à l'ancienne, si vous voulez, mais c'est comme ça. Je trouve que c'est merveilleux de bien savoir écrire et de bien rédiger des lettres et de bien savoir, de pas être handicapé pour pas faire une lettre, un CV et de pas savoir l'écrire avec des fautes parce qu'on part perdant et c'est dommage. Ça me fait même de la peine, vous voyez, pour ces gens-là. Si je pouvais les aider, faire des ateliers d'écriture pour les aider, je le ferais parce que je trouve que c'est très important de savoir bien écrire.
Eh bien, voilà. Merci de l'avoir rappelé ce soir dans le téléphone sonne. Ça vous évoque quel type de réaction? Rachid Santaki.
Bah, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est effectivement prendre le temps. Et souvent, les seniors ont le temps. Ont le temps, justement, et se maintiennent le rapport à la lecture, l'écriture. Et aujourd'hui, on est dans l'ère numérique, donc on va de plus en plus vite. Et c'est aussi ça, finalement, peut-être qui peut faire défaut.
Lorsque Daniel, retraité, nous dit qu'elle est très à cheval sur l'orthographe, qu'elle dit qu'elle lit beaucoup, Estelle Roctanière, est-ce que plus on lit, mieux on écrit? Est-ce que c'est une idée reçue, ça, ou est-ce que c'est réel?
Non, c'est réel. Plus on lit, plus on observe les mots, c'est tunnel, ça, c'est indéniable.
01 45 24 7000, on attend vos questions ce soir sur notre rapport à l'écriture. Quelles sont les principales requêtes, je vous pose la question, Estelle Roctanière, du projet Voltaire. Quelles sont les principales requêtes que les internautes déposent sur la toile pour corriger leurs fautes? Est-ce qu'on a une étude de ça?
Alors, il y a le baromètre Voltaire qui résume tout ça. Les questions qui sont posées, les plus fréquentes, par exemple, c'est surtout, ça concerne souvent les mots qui se prononcent de la même manière mais ne s'écrivent pas de la même façon. Dans, des, apostrophe EN, des ANS, CES. Voilà, mais tout ça, on peut très vite le comprendre. Moi, je suis assez optimiste, en fait, je dois dire. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de travail, mais que les choses changent. On a pris conscience qu'il y avait un vrai problème avec l'orthographe et la grammaire, mais il y a plein de solutions qui existent, dont, encore une fois, l'outil numérique qui permet de s'entraîner quand on le veut, comme on veut. Ça, c'est un allié.
Sur la lecture, justement, un témoignage ou une question de Samuel. Bonsoir, Samuel.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel.
Bonsoir.
Vous êtes le bienvenu.
Merci. Je tenais à appuyer le fait que la lecture c'est le premier pas vers l'orthographe, parce que le sens de la vue, c'est le sens qui est le plus développé dans le corps humain. C'est celui qui va le plus loin. Voilà.
Donc
la vitesse de la lumière. Et donc on s'habitue à voir les mots. Et il faut vraiment inciter les jeunes à lire, parce qu'il n'y a que ça qui va faire en sorte que l'orthographe soit le meilleur possible.
Vous-même, vous lisez beaucoup et donc vous faites moins de fautes en lisant. C'est un peu ça votre témoignage ce soir.
Oui, c'est un peu ça mon témoignage. Mais en fait, c'est plutôt un message. Lisez un magazine, peu importe, un journal, un livre, un conte. Lisez des histoires aux enfants. Il faut lire. On s'habitue, la vue, c'est le sens le plus important.
Merci de ce témoignage. Voilà. Merci de ce témoignage, Samuel. Estelle Rotanière, on le disait tout à l'heure, les outils informatiques font que les jeunes, notamment, lisent aussi. Lisent pas que des livres avec des pages, mais ils lisent pas mal, finalement, sur Internet.
Oui, bien sûr. La lecture, elle est partout. Ce ne sont pas forcément les romanciers du XVIIIe siècle. Enfin, on peut encourager un enfant à lire toutes sortes de choses, des bandes dessinées, enfin, voilà, des articles, enfin, voilà.
Pas mal de questions également ce soir sur les fautes que l'on vient et c'est que l'on tente d'aller corriger justement sur Internet. Alors je continue un peu dans ce registre-là, Estelle Roctanière. Est-ce que ce sont principalement vous avez commencé à l'aborder tout à l'heure, mais est-ce que ce sont principalement des questions grammaticales qui perturbent les Français, c'est-à-dire des questions d'accord et de conjugaison, ou est-ce que ce sont plutôt des questions lexicales et d'orthographe donc?
Je dirais les deux, mais c'est vrai que la conjugaison, les accords, bon, ça souvent c'est quelque chose qui fait peur. Alors qu'au fond, ce n'est pas très compliqué. Une fois qu'on a revu les règles, je vous l'assure, on y arrive très facilement.
Rachid Santaki, dans les dictées géantes que vous organisez, quels sont les types de fautes qui reviennent le plus fréquemment?
Ça dépend des niveaux, les participes passés, effectivement, les accords, les mots qu'on ne connaît pas aussi, tout simplement. Donc c'est assez varié, mais souvent on a peur le participe passé, c'est quelque chose qui revient, ou le passé simple aussi, les conjugaisons, le passé simple aussi, c'est pas mal comme difficulté.
Oui, c'est un temps qu'on utilise de moins en moins à l'oral. Qui est maintenant plutôt réservé à l'écrit.
Question des auditeurs de France Inter ce soir également par mail. Est-ce que la maîtrise de l'orthographe est genrée selon que l'on est donc un homme ou une femme?
Alors, selon le baromètre Voltaire, les femmes maîtrisent davantage l'orthographe que les hommes. C'est un fait.
Et est-ce qu'on sait pourquoi?
Alors peut-être qu'elles lisent plus aussi. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je pense que c'est surtout la lecture.
Je confirme, à nos dictées, on a plus souvent des femmes qui gagnent que des hommes.
Nous avons Anne en ligne au 01 45 24 7000. Bonsoir Anne.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Nice.
Oui, c'est ça. Je vous remercie de prendre mon petit témoignage.
Avec plaisir.
Alors, j'expliquais que je suis une femme d'un âge très certain et que j'ai dû travailler sur ordinateur très tard. Et je travaillais dans une bibliothèque quand même. Et donc, j'avais des messages à envoyer. Si je les tapais directement sur l'ordinateur, je faisais des fautes. Si j'écrivais mon texte à la main avant, je ne faisais pas de fautes. Oui. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois, j'ai eu un examen d'orthographe à passer, de 6e en 5e. Pendant un mois et demi, tous les jours sauf le dimanche, j'avais une institutrice qui me faisait faire une dictée. Et je devais recopier 5 lignes du mot où j'avais fait une erreur. C'était surtout des substantifs, faut dire. Et bien, toute l'année suivante, j'ai eu une d'excellentes notes. Et la troisième chose aussi, c'est que dans les livres que je lis aujourd'hui, parce que je lis toujours, je trouve qu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe dans les livres qui sont imprimés aujourd'hui.
Merci de ce témoignage, Anne, qui nous appelle donc de Nice. Est-ce que l'ordinateur, finalement, fait commettre, au final, plus de fautes? Vous le sentez, ça, Rachid Santaki?
Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas l'ordinateur, c'est l'auteur, en fait, finalement, l'usager qui fait des fautes, connaît les règles ou pas, etc. Après, je pense qu'effectivement, le rapport, on avait un témoignage sur le visuel. C'est vrai qu'on écrit le mot, on peut se dire, il s'écrit correct, il s'écrit comme ça. Peut-être que le fait que ce soit manuscrit et non pas sur l'écran, on a un autre rapport. Mais je pense que Non, c'est pas l'ordinateur qui fait défaut, c'est l'usager tout simplement.
Au projet Voltaire, comment vous considérez toutes ces nouvelles, nouvelles, plus tellement nouvelles maintenant, mais en tout cas, les objets numériques, ils sont là pour le bien de celui qui veut apprendre à écrire?
Oui, en tout cas, c'est un atout. Comme je disais tout à l'heure, l'atout le numérique permet de répéter. Je pense que pour maîtriser l'orthographe, il faut répéter. D'ailleurs, le témoignage qu'on vient d'entendre le confirme. C'est une gymnastique. Il faut d'abord comprendre la règle, bien sûr, et ensuite, il faut s'entraîner.
Un entraînement. Il faut faire des dictées. La dictée, d'ailleurs, qui date, je crois, de la monarchie de Juillet, hein, en 1830-1848, et je crois que c'était la période où s'est imposé aussi le fait de parler le même français, donc ça a généré un esprit national. On va retrouver au standard une question, au 01 45 24 7000, avec Jean-Marc qui nous appelle du Morbihan. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Merci. Donc moi je vous appelle en tant que professeur de français en lycée professionnel. Et j'ai plus une remarque à formuler qu'une question.
Allez-y.
Je dirais que l'orthographe, je suis plutôt de ceux qui pensent qu'effectivement il y a un abaissement du niveau de la qualité de l'orthographe.
Qui est confirmé d'ailleurs par tous les organismes, les PIRLS, les programmes internationaux de recherche et les cours scolaires.
Même si parfois on entend des voix qui disent que bon. Mais je pense que l'orthographe c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, et au-delà de l'orthographe qui peut poser problème, notamment dans ma pratique pour mes élèves, ce à quoi je suis confronté et qui me pose le plus de problèmes, c'est la qualité de l'expression au-delà de l'orthographe, savoir s'exprimer, c'est-à-dire la syntaxe. Et là, on atteint en tant qu'enseignant, on atteint des limites. Il nous est très difficile aujourd'hui de faire progresser les élèves dans la qualité de l'écriture, de savoir s'exprimer, exprimer une opinion personnelle, analyser un texte littéraire. Au-delà, vous voyez, de l'orthographe, il y a aussi derrière quand même la qualité de la syntaxe et le goût pour écrire. Je crois qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que je peux avoir des élèves, par exemple, qui vont faire des fautes d'orthographe, mais qui vont avoir un goût pour la langue et qui vont exprimer des choses intéressantes, originales, pertinentes, au-delà de l'orthographe proprement parlé. Vous voyez ce que je veux dire?
Je vois très bien.
Et donc voilà. Mais voilà. Et puis, si je peux me permettre une dernière chose aussi, c'est que moi, dans ma pratique, ce que j'ai constaté depuis plusieurs années, c'est que le français est souvent la question du professeur de français. C'est-à-dire que toute la problématique autour de la langue, c'est le prof de français.
Là, on parle de l'enseignement, donc c'est de encore autre chose, effectivement. Oui, oui, oui.
Voilà. Et je pense qu'il est dommage que dans un lycée, dans une école, dans un lycée, pour ce qui me concerne, cette question du français, du respect de la langue, ne soit pas plus transversale. Voilà. Quelle que soit la matière, on devrait, je pense, mettre l'accent sur, même dans une matière professionnelle, dans un compte rendu de TP, etc., on devrait, les textes devraient peut-être pouvoir demander à ce que l'élève soit évalué sur une qualité de restitution, même dans le domaine pratique. Et là, je pense qu'on pourrait progresser.
Eh bien, merci de ce témoignage, Jean-Marc, du Morbihan. On a parlé tout à l'heure, Rachid Santaki, de l'importance de la lecture pour maîtriser l'orthographe. Cet auditeur, Jean-Marc, nous dit aussi qu'il y a la maîtrise de la langue verbale qui contribue aussi à la maîtrise de l'orthographe.
Oui, mais après, le socle de l'oralité, c'est quand même... Alors, on peut improviser, on peut avoir une facilité à s'exprimer, mais l'écrit, ça reste quand même la structure. Donc, du coup... Effectivement, là, on parle d'orthographe parce que c'est un sujet qui intéresse, qui suscite beaucoup de d'échanges. Mais l'écriture, pour pouvoir être clair, l'orthographe a quand même un lien avec l'écriture. L'écriture, c'est la base pour moi. C'est le socle en fait du discours. Donc l'écriture, c'est une première phase et elle est essentielle.
Estelle Roctanière du projet Voltaire, ce souci donc de bien maîtriser l'orthographe et de s'y atteler, donc est-ce que c'est une... Je vous posais la question en début d'émission, mais on va y revenir. Est-ce que c'est une préoccupation récente chez les Français? Vous l'avez senti dans votre projet Voltaire? Ou est-ce que c'est très ancien finalement?
Non, je pense que c'est assez récent. Enfin, je dirais que ça date à peu près d'une dizaine d'années. Depuis... En fait, ce qui a changé les choses pour moi, c'est Internet. Oui. C'est-à-dire que on ne cesse d'écrire, tout le monde écrit. Donc tout à coup, c'est devenu visible. Et puis, Internet fait qu'on écrit et qu'on envoie tout de suite son message. Donc on ne peut plus demander, enfin, on ne peut pas demander constamment à quelqu'un de venir relire son message. Donc maintenant, ça se voit. Et c'est pour ça que, encore une fois, je trouve que c'est bien de faire une émission sur ce sujet, parce que c'est devenu un sujet. Donc moi, je suis plutôt optimiste, parce que voilà, on reprend les choses en main.
Vous êtes aussi optimiste qu'Estelle Roquetanière sur l'avenir de la maîtrise de l'écriture, alors, Rachid Santaki ?
Je suis optimiste et je ne ferai pas dictée avec je ne sais combien de participants, avec des gens qui sont en difficulté, des gens qui sont bons. Maintenant, effectivement, on a avec... Internet, les réseaux sociaux, enfin tout ce qui en découle, on voit plus facilement, on voit qu'on a une problématique et que ça devient urgent. Et aussi, juste pour conclure, c'est qu'on a aussi des jeunes qui sont beaucoup plus sur la vidéo, sur des choses assez fulgurantes. Donc c'est un peu ça le problème, c'est comment réussir à les poser dans un rapport avec l'orthographe et pouvoir mettre un cadre.
Une dernière question d'auditeur, je vous la soumets, on va répondre assez rapidement. 7% de la population adulte âgée de 18 à 65 ans ayant été scolarisée en France est aujourd'hui en situation d'illettrisme. Ça représente 2 500 000 personnes en métropole en tout cas. Est-ce qu'on lutte efficacement contre l'illettrisme en France? Et pardon d'avoir un point de vue très court, oui ou non?
Bah après les intéressants ont des techniques d'évitement, donc oui, c'est comment trouver des solutions, mais c'est des gens qui sont isolés finalement, l'illettrisme aussi.
Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir sur notre rapport aux Français. Estelle Roquetanière, je rappelle que vous êtes membre du comité d'experts du projet Voltaire, et merci à vous Rachid Santaki, romancier et fondateur de la Dictée Géante. Dans 20 secondes, il sera 20h.